Nous bénir, Seigneur, nous aider dans notre cheminement, Seigneur, parce que nous en avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin de toi tous les jours, de te connaître davantage, Seigneur. Nous sommes à tes pieds, Seigneur Jésus. Je suis, Seigneur, moi également, Seigneur. Je me mets, tout comme, Seigneur, mes bien-aimés frères et sœurs, Seigneur, devant toi, Seigneur. J'ai besoin de toi également, Seigneur, que je sois un instrument qui soit utile, qui soit, Seigneur, de bénédiction, Seigneur, qui puisse transmettre, Seigneur, à ton peuple ce qu'il y a, Seigneur, de provenant de toi, Seigneur, et non pas de mes pensées ou de pensées humaines, mais vraiment, Seigneur, de ce qu'il y a, Seigneur, de ta parole, Seigneur, pour nous aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Apocalypse au chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 7 au verset 13. Nous allons lire la sixième lettre. Nous allons porter un regard aujourd'hui sur la lettre à l'église qui se trouvait à Philadelphie. Et nous allons certainement recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Donc, je fais la lecture, vous suivrez soit dans vos Bibles ou à l'écran. Apocalypse, chapitre 3, du verset 7 au verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme, personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi alors de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous pouvez prendre place pour ceux qui sont debout. Donc, voilà rendu à la sixième lettre. Depuis quelque temps, les sessions ou les mercredis où j'ai à intervenir, le Seigneur avait mis à cœur de partager un peu, de porter un regard dans le fond sur les lettres qui étaient envoyées, destinées aux sept églises qu'on retrouve dans l'Apocalypse, sans nécessairement aller dans quelque chose de profond, mais de pouvoir retenir, sortir quelque chose qui va être pertinent pour nous, qui va être d'actualité pour nous et surtout qui vient du Seigneur pour nous parler, pour nous instruire, bref, de ce que le Seigneur a pour nous. Et quand on fait un petit résumé, donc la première lettre avait été envoyée à Éphèse et on avait vu que un des messages ou le message principal était de revenir à son premier amour, que c'était quelque chose que le Seigneur Jésus avait contre cette église, une église qui était très bien organisée, une église qui fonctionnait très bien, une assemblée qui était très, très protectrice, très zélée des Écritures et de la doctrine, et donc connaissant la doctrine, pouvait détecter quand il y avait des faussetés qui voulaient s'infiltrer dans l'église. Tout ça était bien, mais quelque chose de fondamental était manquant dans cette église, et c'était l'amour, plutôt le premier amour, cette passion, cet amour passionnel que nous avons et que nous devrions tous avoir envers Dieu, mais également un amour sincère et véritable les uns envers les autres. Et c'était un grand reproche. Parfois, on le voit comme une petite chose. On dit, ah, c'est pas si pire quand même, mais de la façon comment Jésus l'amène et l'aborde à l'église d'Éphèse, eh bien, c'était assez dur, assez sévère, assez critique, parce que l'avertissement que le Seigneur donne à l'église, c'est que s'ils ne changent pas, ils allaient perdre sa présence. Ils allaient retirer le chandelier qui représente la présence même de Dieu. Donc, c'est grave. Et ça nous rappelait, dans le fond, les autres passages dans les Écritures, dans 1 Corinthiens 13, parce qu'il est écrit que je peux faire beaucoup de choses. Et là, je paraphrase, je pourrais faire beaucoup de choses, donner tout mon argent aux pauvres. Je pourrais parler dans toutes les langues humaines et angéliques. Je pourrais prophétiser, je pourrais même donner mon corps au feu, le jeter au feu pour d'autres. Mais si je n'ai pas l'amour, tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je ne suis rien sans l'amour. Et donc, ça, je pense que ça met vraiment la barre là où elle doit être pour nous, le standard pour nous. Donc, l'avertissement, dans le fond, qui avait été servi à Éphèse, eh bien, elle est aussi pour nous, dans notre actualité. La deuxième lettre était pour Smyrne, l'église de Smyrne. On n'entend pas beaucoup parler de Smyrne. On parle beaucoup d'Éphèse, de Philadelphie, Laodicée, mais Smyrne, en fond, le thème ici, c'était d'être fidèle, la fidélité jusqu'à la mort, si c'est nécessaire. Et c'était une église qui souffrait déjà de persécution, qui souffrait déjà de difficultés, d'une réalité qui était difficile pour eux à cause de l'Évangile et à cause de leur foi envers le Seigneur. Et le Seigneur leur annonçait également qu'il viendrait d'autres tribulations, mais que s'ils restaient fermes et fidèles, eh bien, ils auraient une grande récompense. Et on sait, il y a des frères aujourd'hui dans le monde qui sont morts aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des frères dans la foi qu'ils ont été tués, qu'ils ont été exécutés, qu'ils ont été torturés, qu'ils ont été agressés à cause de leur foi dans des régions du monde. Donc, c'est une réalité qui est là. Elle ne nous touche peut-être pas dans ce coin du monde. On n'est pas rendu à cette réalité-là. Elle le sera certainement un jour, mais ça nous ouvre les yeux sur l'importance de la fidélité. Et parfois, pour des petites choses insignifiantes, des choses qui touchent plus l'immaturité, parfois on manque à notre fidélité, à notre engagement, à notre service envers Dieu, envers les autres. Donc, il n'y avait pas d'avertissement ici. Dans le fond, pour Smyrne, le Seigneur n'avait pas quelque chose de négatif. Il faisait juste les encourager persévérer, être fidèle jusqu'à la mort. Pergame, c'était la troisième lettre. Et dans Pergame, dans le fond, ce qu'on a ressorti, c'était de vivre sans compromis. C'était une ville où est-ce qu'il y avait tout un système de société dans lequel, pour pouvoir y prendre part à cette société-là, il fallait rentrer dans l'idolâtrie. Il fallait participer soit dans les cultes païens, soit dans ce qui était offert aux idoles, ou dans les pratiques païennes qui incluaient, entre autres, l'immoralité au niveau sexuel. Donc, il y avait ce grand système-là où est-ce que, dans le fond, si on voulait faire partie de la société, c'était un peu le prix à payer. Et c'était un grand défi pour les chrétiens. À Pergame, et Dieu, dans le fond, le message qu'il leur donne et qu'il nous donne à nous, c'est que c'était important de vivre aujourd'hui. Nous vivons dans une société également où l'idolâtrie, elle est présente sous différentes formes. Ce n'est pas des temples de différents dieux de la mythologie grecque, mais il y a d'autres sortes d'idolâtrie. l'argent, les vices, les passions de la chair aujourd'hui représentent tous des différentes idoles, différents dieux, donc de l'idolâtrie. Et tout ce que le monde a à offrir, c'est, ça vient avec l'idolâtrie. Et donc, nous, à faire attention de vivre sans compromis de ce côté-là. Quatrième lettre était pour l'église qui se trouvait dans la ville de Thyatire. Et Thyatire, dans le fond, une des choses que Jésus avait comme blâme contre eux, c'était qu'ils avaient laissé faire, ils avaient laissé agir, ils avaient laissé, entre autres, une femme que Jésus associe à Jézabel. Jézabel, dans l'Ancien Testament, qui était une reine païenne, qui avait, dans le fond, amené le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Et que même le temple de Dieu, elle avait fait des statues de Baal et de ses dieux dans le temple même, et avait amené, dans le fond, le peuple à se corrompre dans l'idolâtrie. Elle avait une main forte également. Jézabel avait un esprit autoritaire très fort qui intimidait les hommes de Dieu. Et donc, Jésus associe la femme qui se trouve à Thyatire avec Jézabel. Et dans le fond, le message pour nous est de ne pas tolérer l'intolérable. Le problème, le diable peut faire tout ce qu'il veut. Si les chrétiens ne le laissent pas faire, il ne pourra rien faire. Et lorsque nous laissons le péché rentrer, nous laissons les faussetés rentrer, nous laissons l'ennemi agir. Et même si on dit, ça nous fera pas mal, ou c'est juste un petit compromis mignon, ça nous fera pas de tort, c'est quelque chose qui va grandir et qui va causer beaucoup de dommages et d'afflictions. Et donc, de ne pas tolérer l'intolérable. Ensuite, la cinquième lettre, c'est à Sardes. Et à Sardes, eh bien, on avait vu que le message, dans le fond, était d'être authentique, être de vrais croyants, de vraies personnes de la foi. On croit que certains chrétiens, dans le fond, vivaient une espèce de double vie, parce qu'ils avaient carrément accepté, disons, de vivre dans le monde et de vivre selon le monde, avec l'impudicité, avec l'idolâtrie, avec toutes les pratiques immorales, mais également de vivre l'Évangile en Jésus-Christ. Et que ça, dans le fond, Jésus avait contre eux cela, le fait qu'ils n'étaient pas authentiques dans leur foi. Et eux, dans le fond, avaient décidé, ou certains d'entre eux avaient décidé d'opter pour cette approche justement pour se sentir en sécurité, pour ne pas avoir à subir, disons, des outrages provenant des gens, de la société, de ne pas avoir des portes fermées parce que c'était une ville quand même avec du commerce et de la prospérité. C'était une ville très riche. Et donc, pour pouvoir vivre, bénéficier de la richesse qu'il y avait dans cette ville, bien certains ont adopté cette approche-là. Et le Seigneur leur disait, non, il faut être authentique dans la foi. Et donc, nous sommes maintenant rendus à la sixième lettre, l'Église à Philadelphie. Une petite précision, Philadelphie, c'est pas l'Église, c'est pas la ville aux États-Unis. Parce que Philadelphie, bon, nous, notre association, c'est avec l'histoire américaine, l'indépendance des États-Unis. Certains, c'est le film Rocky, peut-être, Rocky Balboa, tu sais, quand il court, là, puis il arrive en haut, non, OK. Ou d'autres, plus au niveau du sport, les méchants Flyers qui affrontaient le Canadien en série éliminatoire dans les années 80-90, puis ça finissait tout le temps en bataille, bon, on aimait ça, hein, ces matchs-là. souvent, on associe Philadelphie avec ça, mais ici, c'est pas la même ville. On parle d'une ville, bien sûr, en Turquie, dans la même région que toutes les autres villes, Éphèse, Pergame et compagnie. C'était une ville importante jusqu'à un grand tremblement de terre qui a eu lieu, qui a détruit une grande partie de la ville. C'était également une ville prospère où il y avait la prospérité au niveau de du vin, des vignes et des vignobles. Et suite au tremblement de terre, ils attendaient à ce que Rome, l'Empire romain, les soutienne. Et il y a eu un peu de soutien. Ils ont été exempts de taxes, dans le fond, pendant un certain temps. Mais les gens de Philadelphie s'attendaient un petit peu plus de la part de Rome. Et il y a eu même, à un moment donné, un conflit, disons, entre les producteurs de vin de Rome et ceux de la région de Philadelphie, où est-ce qu'on voulait mettre la pression pour que cette industrie cesse, pour donner vraiment l'importance et accorder toute la priorité aux vignobles qui étaient plus proches de Rome. Et donc, il y a eu comme une espèce je pense, de sentiment d'abandon, sentiment de trahison, si on peut dire, de la part de la capitale romaine à l'époque. Donc, Rome ne tenait pas, dans le fond, ses promesses. Comme pour toutes les autres villes, il y avait l'idolâtrie et il y avait aussi une sorte de persécution, une sorte d'approche négative face aux chrétiens. Mais plus particulièrement, et ici le chapitre, plutôt le passage en parle, parce que par rapport aux Juifs même, c'est-à-dire la synagogue. Vous allez remarquer que beaucoup de trucs qui sont énumérés, de symboles qui sont énumérés ici par le Seigneur, font référence à Israël. Et ça, on va en comprendre un petit peu plus là-dessus. Donc, une ville idolâtre avec tous leurs temples, une ville également qui avait une certaine opposition face aux croyants, mais plus particulièrement les Juifs. Les Juifs qui étaient dans les synagogues ou dans la synagogue, qui également, au départ, ont ouvert les portes aux chrétiens, mais que du moment où est-ce que les chrétiens commençaient à présenter Jésus-Christ comme le Messie et qu'il était ressuscité d'entre les morts, eh bien, à ce moment-là, les portes se fermaient de la synagogue. Et pour plusieurs de ces Juifs chrétiens, la vie de communauté à travers la synagogue était une façon également de s'intégrer, de faire partie de la vie de la ville. Et donc, au même titre que les habitants de Philadelphie ont senti que Rome n'a pas tenu ses promesses, que Rome leur a fermé la porte, eh bien, les chrétiens également, les Juifs chrétiens, qui n'étaient pas nombreux, on parle d'un petit groupe. Jésus même dit, tu n'as pas de puissance, je sais que tu n'as pas de puissance, donc ce n'est pas un groupe important, mais également eux ont senti que les portes se sont fermées. À un moment donné, les portes même de la synagogue à l'époque se sont fermées pour eux. Donc si nous allons maintenant aux Écritures, verset 7, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Vous voyez, je vous parlais justement de symbolique par rapport à Israël. On parle ici de la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il faut mentionner ici que dans cette lettre à Philadelphie, il n'y a pas de réprimande. Dans ce qu'on a lu, si vous avez remarqué, il n'y a pas de réprimande. Il y a des réprimandes pour les autres églises, à l'exception de Smyrne. Dans le fond, Smyrne et Philadelphie jusqu'à date, ce sont les deux églises où Jésus n'a pas de réprimande contre eux. Et tout comme pour Smyrne, Jésus donne cette parole, envoie cette lettre comme pour servir d'encouragement. Et donc, il se présente. Vous vous souvenez, on avait dit Jésus à chaque fois. À chaque introduction de la lettre, il se présente et il donne une révélation de lui-même qui est différente, mais qui est toujours en contexte avec ce qui se passe dans la ville et ce qui se passe dans l'Église. Et donc il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable. Le Saint, c'est-à-dire celui qui est parfait, celui qui est sans tache, celui qui est sans péché, celui qui n'a pas de faute. Et le véritable, c'est celui qui n'est pas menteur. Le véritable, c'est dans le fond celui qui dit qu'une chose et il l'accomplit. Lui qui est constant, celui qui ne change point. Et là, pourquoi est-ce que Jésus se présente comme ça, c'est important, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure en contexte, les habitants avaient vécu une certaine trahison, si on peut dire, où est-ce qu'on leur avait promis des choses qui n'ont jamais abouti. Et pour les chrétiens également, eh bien, non seulement ils ont vécu cela, mais en plus de ça, ils avaient un accès, ils avaient une possibilité à travers la synagogue, et cela également, ça leur a été fermé. Et donc là, Jésus se présente à eux en disant, « Mais moi, je suis sans faute. Moi, je me présente comme celui qui ne va jamais vous laisser tomber. Celui qui promet une chose et l'accomplit. Celui qui exécute ce qu'il dit. Qu'il n'est pas menteur, en d'autres mots. Tout le monde peut vous mentir. Tous les êtres humains vont vous mentir, mais moi, le Seigneur, je ne vous mentirai pas. Je suis sans faute, je suis le Saint. » Donc déjà, il se présente comme la personne, la meilleure personne, et probablement la seule personne qui est digne de confiance. Et lorsqu'il dit « Voici celui qui a la clé de David », la clé de David est intimement liée à Israël, à la maison d'Israël. Donc, il a la clé de David, ça veut dire qu'il est propriétaire. Il a la clé, vous avez la clé de votre maison. En principe, vous êtes propriétaire. Peut-être que vous êtes locataire, mais Jésus n'est pas locataire, Jésus est propriétaire. Il a la clé en tant que propriétaire. Donc, il est propriétaire de la maison d'Israël. Et c'est important ici parce que, encore là, ça fait référence à Israël, ça fait référence à la synagogue et aux outrages et à la persécution que ces chrétiens-là étaient en train de vivre. Donc, qui a la clé de David, il dit, mais moi, je suis le Seigneur d'Israël, je suis le propriétaire d'Israël. Donc, je suis au-dessus de tout ce qui peut se passer dans la ville, mais également entre les Juifs et dans la synagogue. Et il poursuit en disant, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il se présente vraiment comme l'espoir, l'espérance pour ces chrétiens qui se sont vus les portes fermées devant leur nez, de la synagogue, de la ville également, et qui les encourage en disant, écoutez, moi je suis celui qui ouvre la porte ou les portes et personne ne pourra les fermer. Et que je suis celui qui ferme les portes, que personne ne sera en mesure d'ouvrir. Donc, important comment Jésus s'introduit lui-même. Parce qu'il vient carrément parler aux chrétiens en disant, je suis le Saint, je suis le véritable. Mes promesses sont oui et amen. Je ne vous abandonnerai jamais. Je vais toujours accomplir mes promesses. Ce que je dis, j'exécute. Mais également, c'est moi qui ouvre toute porte. Même si les gens vous ferment les portes, moi, je suis capable d'ouvrir toute porte et de fermer également toute porte, que personne ne pourra changer cette situation-là. C'est ce qui est important aussi. Il dit, vous avez vécu des changements de situation, des portes ouvertes se sont fermées, mais avec moi, il n'y aura pas de surprise. Quand j'ouvre une porte, elle reste ouverte. Quand je ferme une porte, elle reste fermée. Donc, important comment le Seigneur ici se présente. Verset 8, « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. » Que personne ne peut fermer. On retrouve encore ici la notion de porte. Mais on va aller plus haut dans la phrase. Il dit, voici parce que tu as peu de puissance. Donc, c'est pas un grand groupe. Ce n'est pas un groupe imposant. C'est une petite église. C'est un petit groupe de croyants. Mais parce qu'ils ont gardé la parole, il dit, et qu'ils n'ont pas renié le nom de Jésus-Christ. Donc, contrairement à d'autres, comme par exemple à Pergame, à Thyatire, où ils ont fait des compromis, ils n'ont pas gardé la parole, ils ont plutôt mélangé les choses et qu'ils n'ont pas non plus renié son nom. Donc, eux autres, ils ont gardé la parole, ils ont gardé le nom du Seigneur également. Ils n'ont pas renié pour céder à la pression qu'ils pouvaient avoir sur eux par le monde. Donc, étant un petit groupe, des fois, on pense qu'un petit groupe, face à l'immense pression, ils vont céder, ils vont succomber, ils vont être avalés par le monde, par les tentations du monde. Eh bien, ici, on voit un peu comme dans Astérix, hein, les érudités gaulois, le petit village gaulois là, qui résiste un peu. C'est un peu ça, t'sais, l'image. Ils ont gardé la parole intacte. Ils n'ont pas accepté de compromis avec les doctrines. Et il y en avait, hein, autant les doctrines païennes que les choses qui voulaient naître des différents courants de pensée qui disaient que Jésus-Christ n'était jamais ressuscité, que Jésus-Christ n'était jamais venu en chair, dans d'autres qu'on est déjà dans le salut, dans la vie éternelle. Bref, il y en avait des histoires. Il y en avait de quoi magasiner, disons, des différents courants de pensée, des fausses doctrines. Donc, eux, ils ont gardé la parole et ils n'ont pas renié le nom de Jésus. Parce qu'ils étaient... Ils ont fait cela. Le Seigneur dit, j'ouvre une porte. Maintenant, que veut dire cette porte ouverte? Bien, il peut y avoir différentes opinions là-dessus. Parce que c'est également basé sur... Où les différentes opinions sont basées sur différents passages ou extraits de la Bible lorsque on utilise la porte comme symbole. Premièrement, la porte pour l'évangélisation. Donc certains croient, et ça c'est la croyance, disons, la plus populaire ou la plus répandue, que ici la porte que Jésus ouvre à l'église de Philadelphie, c'est une porte pour l'évangélisation, pour aller gagner des âmes. Pourquoi? Parce qu'il dit par la suite au verset 9, « Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent, juifs ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » C'est-à-dire que Jésus est en train de leur dire, il y a des gens dans la synagogue qui vous font du mal, qui vous outragent, qui vous ont fermé les portes, qui vous ont menti, qui vous ont accueilli au départ, mais qui vous ont repoussé, ces gens-là, parmi ces gens-là, ils vont venir au Seigneur. Il n'est pas en train de dire, voici, je te les donne, puis tu fais avec eux ce que tu veux. Hein? Il n'est pas en train de dire, ah, je te les donne, puis tu vas pouvoir te revenger. Non. Lorsqu'il est en train de dire ce que je te donne, c'est-à-dire que ces âmes vont venir à Christ à travers cette porte que Dieu ouvre pour l'Église de Philadelphie. Et ils vont reconnaître que je t'ai aimé. Donc, il va avoir une repentance. Il va avoir une nouvelle prise de conscience de ces gens-là et qu'ils vont reconnaître, dans le fond, que ces chrétiens-là étaient vraiment le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Et pourquoi ici, est-ce qu'il parle de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas? C'est parce que pour Christ, pour Dieu, un vrai juif va aimer l'Église. Un vrai juif va reconnaître Christ. Un vrai juif va également reconnaître l'Église, l'épouse de Christ. Donc, voilà pourquoi on pense que cette porte est une porte pour l'évangélisation, pour amener l'Église de Philadelphie à une nouvelle dimension, à une nouvelle croissance, celle qui était peu de puissance, qui va augmenter en puissance, qui va augmenter en impact par cette porte pour la parole de Dieu. D'autres pensent que c'est une porte qui est comme une espèce de sortie de secours pour la tentation, parce qu'il fait également référence, le Seigneur, à qui va garder l'Église pour l'heure de la tentation qui va survenir sur le monde. Et la Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui vient de Dieu, mais que Dieu, à chaque fois, pourvoit une sortie, donc une porte de sortie. Donc, on pense, ou certains pensent que ça va être une façon pour l'Église ou les croyants de Philadelphie de pouvoir passer à travers ce temps de tentation ou les épreuves de tentation qui viendraient sur eux ou sur le monde. Et la troisième est la porte du royaume, donc que Dieu leur donne, dans le fond, de vivre, d'expérimenter quelque chose de très grand, de très merveilleux par rapport au royaume de Dieu. C'est les trois principales courants de pensée par rapport à l'interprétation qu'on devrait donner à cette porte. Mais je vous le parle, je vous l'expose. Moi, personnellement, si on peut donner un peu notre opinion, je crois que c'est une porte pour vraiment l'Évangile. Dieu ouvre une porte pour que des âmes viennent, et principalement des âmes qui les outrageaient, des âmes qui leur faisaient beaucoup de mal, qui leur mentaient même, qui les ont trahis en quelque sorte, et que Dieu allait toucher leur cœur pour qu'ils viennent à Christ et qu'ils reconnaissent que eux autres étaient vraiment le peuple de Dieu. Donc, vous voyez, les références qu'on fait beaucoup avec Israël ici sont importantes. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Si vous avez bien lu, vous remarquerez que c'est la deuxième fois que Jésus dit que cette église a gardé la parole. La première fois, c'est au verset 8, et la deuxième fois, c'est au verset 10. Parce que tu as gardé la parole. Et ça, c'est, dans le fond, le message central pour nous ce soir, en ce qui concerne cette lettre, c'est de garder la parole. Garder la parole dans sa pureté, aimer la parole. On va garder ce qu'on aime. Quand vous avez le choix de vous départir de choses, hein, il faut faire un choix, il faut faire un tri. Ouais, peut-être que vous ne l'avez pas fait, peut-être que c'est dans vos habitudes ou non, mais parfois des gens, quand il y a un changement de saison, font le tri des vêtements. Puis là, il y a des vêtements qui sont trop usés, des vêtements qui. Il y a la sauce tomate qui est tombée, puis après 20 lavages, la sauce n'est jamais partie. Il y a encore la marque, là. On ne va pas porter ça en été, donc on finit par s'en départir. Mais curieusement, on a toujours. Et je dis on parce que chez nous, on le fait, là, quand on fait le changement, puis il faut le faire avec les enfants aussi, là, ils grandissent, donc on doit se départir de vêtements, en acheter d'autres, et bref. Il y a tout le temps deux ou trois vêtements qu'on aime et qu'on veut garder, même si on sait qu'on ne rentre plus dedans. Oui ou non? On le garde. On ne veut pas s'en départir. Puis on se dit peut-être que si je fais de la bicyclette, si je cours 5 km, si je fais un peu d'exercice le matin et le soir, ah, si j'arrête de manger du barbecue, ou si, je sais pas, j'annule mon abonnement à McDonald's, je sais pas. Peut-être que pour telle date, je vais pouvoir rentrer dans ce t-shirt, cette chemise ou cette robe. Et on la garde parce qu'on l'aime. C'est un peu ça aussi, la parole. On va garder ce qu'on aime. Et si on est capable d'avoir ce lien affectif avec un bout de tissu, à plus forte raison, on devrait avoir ce lien d'amour avec la parole de Dieu. Et ce petit groupe, ce petit groupe d'irréductibles croyants, bien, ils avaient un amour immense pour la parole. Puis ils ont gardé la parole parce qu'ils voyaient en elle le trésor leur appui, leur espérance. Ils savaient que dans la parole, ils trouveraient la vérité, ils trouveraient le véritable. Et donc, deux fois, Jésus fait ce constat-là. Pas juste une fois, deux fois. C'est comme quand il dit « en vérité », c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose que Jésus tient à souligner, à distinguer, à remarquer de ce groupe. Et pour nous, c'est important parce que si nous aimons la parole, nous allons la garder. Alors, gardons-nous la parole? Ça, c'est un bon questionnement pour nous. Gardons-nous la parole parce que nous l'aimons? Ou c'est plutôt par convenance, quand ça nous tente, ou quand on passe par des moments difficiles? Là, on va à la parole. Là, lorsque l'angoisse, l'anxiété atteint un certain niveau, là. On est stressé, là on va à la parole. Puis le reste, ben, on la laisse de côté. Donc, Philadelphie avait gardé la parole. Et parce qu'ils ont gardé la parole, Jésus va également les garder à l'heure de la tentation. N'oublie pas une chose, lorsque Jésus fut tenté, comment est-ce que Jésus a vaincu ou a passé à travers ses tentations dans le désert, pas en s'appuyant sur lui-même, sur sa force, pour dire « Ah non, moi je suis capable de résister, je vais être capable. » Pas en se disant « Bof, j'ai l'expérience, je te connais, diable, je sais que tout ce que tu dis est mensonge. » Non. Tout ce que Satan, la façon comment Satan a tenté Jésus, était pour que Jésus soit vraiment tenté, là. Pour faire réfléchir Jésus, puis lui faire mettre cette option-là dans la balance pour qu'il dise finalement, c'est quoi, je pourrais éviter la croix, puis obtenir quand même tous les royaumes de la terre. Je pourrais quand même utiliser l'autorité que j'ai pour transformer des pierres en pain, et subvenir à mes propres besoins. Il n'y a rien de mal là-dedans. Les tentations que Jésus a eues étaient des vraies. Et la réponse de Jésus à chaque fois a été, il est écrit. Jésus est allé à la parole. Jésus a utilisé la parole. Jésus a gardé la parole. Et donc, on voit ici un parallèle avec ce que cette église-là a fait. Cette église a gardé la parole au milieu de la tentation de l'idolâtrie. Parce que croyez-moi, c'était les tentations du monde à l'époque. Aujourd'hui, c'est d'autres choses pour nous. Mais à ce moment-là, c'était des vraies tentations pour pouvoir faire partie du groupe, pour pouvoir vivre une vie plus aisée, pour pouvoir vivre mieux en société. C'était vraiment une tentation. Une épreuve, un défi pour les enfants de Dieu. Et donc, pour eux, de garder la parole au milieu de ces tentations-là, eh bien, le Seigneur leur promettait qu'ils seraient gardés à l'heure de la tentation qui va survenir sur le monde entier pour éprouver les habitants. Et donc, c'est là où ça nous parle à nous également. Si nous gardons la parole, si nous l'aimons, si nous méditons en elle. Peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui où est-ce que nous sommes tentés et nous succombons comme ça. Mais peut-être que ça ne va plus être pareil. Là. Et tout comme Jésus l'a dit pour l'Église, peut-être qu'il va le dire à nous aussi. Il va nous garder. On va voir ce résultat-là. On va voir cet impact-là de la parole de Dieu dans nos vies. Le psaume 119 nous parle également de l'importance de la parole pour ne pas tomber dans la tentation. Comment est-ce que le jeune homme gardera son cœur pur, son sentier pur? Hein? Là, je paraphrase, là, mais en suivant vraiment les commandements en restant dans la parole, donc en gardant la parole. Vous irez lire dans le psaume 119, il y a plusieurs versets qui parlent également de l'importance de garder la parole, de garder les commandements. Et donc, verset 11, et on va finir avec cela, il dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » On ne va pas rentrer ici dans les détails, mais deux choses. Encore une fois, il dit « Retiens ce que tu as. Continue à garder ce que tu gardes jusqu'à présent, afin que personne ne vienne enlever ta récompense. » Il dit « Celui qui vaincra. » Celui qui vaincra quoi? Celui qui, dans le fond, gardera la parole jusqu'à la fin, au milieu de la tentation. Dieu fera de lui une colonne, quelqu'un de fort, de solide, dans le temple de mon Dieu. Encore là, il fait une référence au peuple, à Israël. Parce que l'image que nous avons du temple, c'est le temple qui était à Jérusalem. Donc, qui va faire de lui une colonne dans le temple. Et également qui va lui donner bien d'autres choses. Donc l'importance ici, bien-aimé, c'est de garder la parole. Le Seigneur le fait voir et lui donne beaucoup de valeur à ce petit groupe à Philadelphie parce qu'ils ont gardé la parole, qu'ils n'ont pas renié le nom. Et à cause de cela, Jésus ouvre une porte pour eux. Pour la parole de Dieu, pour que des âmes viennent, pour que des âmes soient touchées par la parole, mais également Dieu par une porte pour, comme sortie de secours dans la tentation, dans l'heure de la tentation qui va survenir. Donc, importance, on peut voir à travers cela l'importance, dans le fond, de garder la parole de Dieu. Donc, lorsque vous allez faire votre tri pour le changement de saison, puis que vous allez décider de garder la chemise ou le t-shirt ou la robe, pas parce que vous rentrez dedans, mais parce que vous l'aimez encore, il y a ce lien affectif. Pensez à la parole. Est-ce que vous avez le même lien? Est-ce que lorsque viennent des changements dans votre vie et qu'il y a des choses qui quittent votre vie, est-ce que la parole de Dieu perd de son importance? Est-ce que la parole de Dieu prend le chemin du recyclage? Ou est-ce que vous la gardez toujours près de vous, là, cette belle parole du Seigneur? Donc, élevons la voix et prions, remercions le Seigneur pour ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que séparés de toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi, Seigneur, qui nous soutiens, qui nous garde, qui nous fortifie. Seigneur, et sans toi, nous serions perdus complètement, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons ce privilège d'être appelés, Seigneur, enfants de Dieu, connaître ta parole et, Seigneur, de recevoir ce message, cette exhortation de garder la parole au milieu, Seigneur, de toutes les tentations qui sont autour de nous. Malgré, Seigneur, nos faiblesses, malgré peut-être le fait qu'on soit un petit groupe, qu'on ne représente pas, Seigneur, un grand pourcentage de la population ici au Québec ou dans le monde, mais qu'on soit, Seigneur, vraiment ferme, accroché à toi, Seigneur, pour garder ta parole et pour ne pas renier ton nom. C'est-à-dire, Seigneur, pour honorer ton nom, respecter ton nom, et donner, Seigneur, toute la valeur que ton nom, Seigneur, mérite. Parce que toi seul, tu es digne de recevoir toute louange et toute adoration. Parce que oui, Seigneur, certainement, nous voulons voir une porte s'ouvrir pour nous, ici à Montréal, au Québec et partout, Seigneur, pour partager la parole, pour gagner des âmes, Seigneur, pour toi. Également, Seigneur, nous voulons voir cette sortie de secours, cette issue, Seigneur, au milieu, Seigneur, de la tentation. Fait de garder et d'aimer ta parole, Seigneur, nous procure cela. Alors on te rend grâce et on te remercie pour cette parole d'exhortation. Que notre retour, Seigneur, à la maison puisse, Seigneur, se faire sans souci, sans tracas, dans ta paix, dans ta grâce. Le reste de cette semaine également, Seigneur, le remettons entre tes mains, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, gardons la parole, bien-aimés, c'est important. C'est important. Et bon retour, n'oubliez pas les assemblées dans les prochains jours, les activités, bénédiction matinale, également le temps de prière, et dimanche, l'assemblée, la fête des mères. Donc, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.